Koulam. Eh, Tov les Koulam. Et alors, je ne vais pas faire mentir mon ami sur le sujet de notre cours. Donc, on va parler un petit peu de justice et un peu de social. Mais je vous avoue que notre thème aujourd'hui n'est pas centré que sur la justice sociale, car nous ouvrons une série qui, à mon avis, durera au moins deux cours là aussi, mais cette fois pour le coup, c'est sûr. On va parler de Yerushalayim, de Jérusalem dans la réalisation des prophéties. Et oui, non seulement on avance à grands pas dans la réalisation des prophéties, mais on avance aussi à grands pas vers Yom Yerushalayim, vers Yom Jérusalem. Et donc, eh bien, je me suis dit qu'on n'en aurait pas assez que de deux cours pour essayer de voir où Jérusalem se trouve dans la prophétie et qu'est-ce qu'on a déjà réalisé dans ces prophéties qui parlent de Jérusalem. Donc voilà, on lance maintenant le sujet Yerushalayim. Et c'est vrai que, pour faire écho à ce qu'on a dit la semaine dernière, l'un des premiers sujets qu'on va évoquer, c'est la notion de Tzedek, de Ira Tzedek, de la ville de la justice pour Jérusalem. Alors, je vous propose, sans plus tarder, eh bien, de rentrer dans le vif du sujet. Alors, attention, je vais tout de suite vous partager le écran. Attention, c'est parti. Allure, tac, tac. Voilà. Alors, hein. Yefi. Là, où est-ce qu'elle est? Voilà. Attention, c'est parti. Et on va commencer par ça. On va commencer par ce chitouf massacre qui arrive là. Voilà. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est bien. Alors, est-ce que je vais réussir à vous chitfer ça? Ça, rien n'est moins sûr, évidemment. Hop là. Voilà. Et c'est parti. Alors, on y va. Avant de rentrer dans les versets eux-mêmes, eh bien, je vous ai fait comme ça une petite matseguette sympathique, ça fait toujours plaisir. Yerushalayim dans la Torah, Jérusalem dans la Torah. Et alors là, quand on parle de Jérusalem dans la Torah, eh bien, la première chose qu'on doit évoquer, eh bien, c'est justement la notion d'absence. Yerushalayim, aussi fou que cela puisse paraître, n'apparaît pas dans la Torah. Jérusalem n'apparaît pas dans la Torah. Comment ?
Ethan, je te coupe.
Oui.
Est-ce que tu peux mettre en bas à gauche le petit livre ?
Le petit livre ?
En bas à gauche, en mode book, ça s'appelle. Comme ça, on voit bien l'écran. Voilà, non ? Celui d'après ? Ouais, oui, ça aussi, c'est pareil.
Ça c'est bien ?
Top. Ouais, c'est top.
Ok. Donc, Jérusalem est le grand absent de la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Alors évidemment, nous savons tous à quel point Jérusalem tient une place fondamentale dans l'histoire juive, mais comment ça se fait que Jérusalem n'apparaît pas du tout dans la Torah? Ça nous fait réfléchir. Alors oui, évidemment, Jérusalem va apparaître dans le Tanakh. Certes, quand tu demandes à un musulman combien de fois le mot Jérusalem apparaît dans le Coran, quelle est la réponse?
Zéro.
Zéro, la tête à Toto. Mais il pourra te répondre, mais dans la Torah non plus, c'est pas marqué Jérusalem. Dans la Torah non plus, c'est pas marqué Jérusalem, même si, comme on l'a dit, c'est oui marqué dans le Tanakh. D'ailleurs, quelqu'un peut me dire combien de fois Jérusalem est marqué dans le Tanakh?
616 fois, non?
616, qui dit mieux? Non? Pas d'autre avis? Vous voulez pas? Alors, je vais vous dire. Jérusalem apparaît dans la Torah. Attention, je vous le donne en mille. Et 669. 669 fois, Jérusalem apparaît dans la Torah. Alors, la vérité, c'est que ça apparaît 660 fois d'une certaine façon. Ça apparaît 660 fois en ktiv chaser. C'est-à-dire, on écrit Yerushalayim sans le yud. Et il y a marqué encore 4 fois en ktiv malé avec le yud. Et il y a marqué également 2 fois Yerushalayma vers Jérusalem, mais sans le Yud, et encore, encore cinq fois où il y a marqué Yerushalayma avec le Yud. Donc 669 fois que Jérusalem apparaît dans la Torah. Bon, c'est évidemment énorme. C'est évidemment énorme, mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Qu'est-ce que Jérusalem représente dans la tradition juive ? Eh bien, Rabotai, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Hop là, on est chutouf. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Chitouf Lamassar. Et c'est parti. Yofi. Alors, ça, on voit ou il faut que j'agrandisse ?
Non, parfait.
Parfait. Très bien. Alors, allons-y. Les amis, Yerushalayim dans la Torah, d'où ça vient ? D'où ça vient ? On a dit, Jérusalem n'est pas marqué dans la Torah. Mais est-ce que c'est vrai que ce n'est pas marqué dans la Torah ou c'est marqué autrement dans la Torah ? Eh bien, en vérité, quand on y réfléchit un tout petit peu, eh bien, on va voir que Jérusalem est, oui, mentionné dans la Torah, mais d'une autre façon. La première fois qu'on veut parler de Jérusalem, ça nous ramène au livre de Bereshit, dans la Névoa, dans le livre de Bereshit, au chapitre 14. Là-bas, il nous est enseigné que Malkit Tzedek Melech Shalem Otsi Lechem Veyain Vu Kohen Le'el Elyon. Vayomer Baruch. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Tov, lo mishaneh. Vayomer Baruch Avraham Le'el Elyon Koneh Shamayim Va'aretz. Je vois que les deux derniers mots de la phrase sont partis en cacahuète. Ou Baruch El Elyon Asher Migen Tzarcha Beyadecha Vayiten Lo Ma'aser Mikol. Ici, la Torah nous explique que Jérusalem s'appelait à l'époque Shalem. Mais moi, j'ai une question. Ce que je viens de dire là, que Jérusalem s'appelait Shalem, d'où je l'ai sorti ? Dans le texte de la Torah, dans le chapitre 14, on me dit simplement qu'Abraham rencontre un roi qui s'appelle Malkitzedek, qui est le roi d'une ville qui s'appelle Shalem, et qui est monothéiste. Bon, c'est très bien, mais de là à me dire que ce Shalem en question, c'est Jérusalem, Lama, Minayin, d'où j'ai appris que Shalem, eh bien, c'était Jérusalem. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Parce que je sais que tout le monde sait que Shalem, c'est Jérusalem. Mais la Shéla, c'est d'où on le sait ? Est-ce que quelqu'un a une idée ?
En fait, c'est la composition de Yérou, qui vient de Yéra. Aleph et He, ça fait le Vav. Et Shalem, c'est Shalim, c'est un dual. Il y a le monde supérieur et le monde inférieur dans le récit de Yaakov et de l'échelle.
Et mais là, vous ne m'avez pas du tout donné d'argument pour me dire que c'était bel et bien Jérusalem. Vous m'avez expliqué de quoi était composé le mot Jérusalem. J'entends bien. Mais qu'est-ce qui me dit que l'endroit qui s'appelle uniquement Shalem, c'est Jérusalem ? Maintenant, ce que vous dites, attention, attendez deux secondes, ce que vous dites n'est pas sorti de nulle part. Vous citez le Midrash. Le Midrash Rabba va nous dire pourquoi est-ce que Dieu a appelé cette ville Jérusalem ? Parce qu'il n'a pas voulu faire honte à aucun des deux tzadikim. Le premier tzaddik s'appelle Malkitzedek et il a appelé cette ville Shalem. On verra un petit peu plus tard, et vous connaissez ce verset, que Abraham a appelé cette ville Yeru, Yirae, Yira. Et donc Dieu il a dit, bon, on va faire une connexion des deux. Mais ça ne m'a toujours pas expliqué comment je sais que le Shalem de Malkitzedek, eh bien, c'est Jérusalem. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Et Dan, est-ce qu'on n'a pas un indice au niveau géographique dans les versets qui sont avant ou après ?
Alors, tu parles dans Bereshit ?
Oui.
Alors, dans l'histoire de Abraham, on a un indice, mais qui est quand même assez large. C'est-à-dire qu'on sait que Abraham vient de faire la guerre contre les quatre rois babyloniens. On sait qu'il a vaincu ces quatre rois et qu'il a libéré les gens de la mer morte, les gens de Sodome. Et on nous dit également que les rois de la région ont voulu faire de lui leur chef, Be'emek Shavé ou Emek Amelech. Mais la Torah nous a simplement dit que c'était Emek Amelech, la vallée du roi, la vallée de l'égalité. Mais on ne nous a pas dit exactement où c'est. Chazal vont nous expliquer que c'est Nahal Kidron, que c'est là où on a, en contrebas de Ir David, c'est ça le Emek Shavé. Mais d'accord, mais ce n'est pas marqué clairement, textuellement, dans la Torah, du moins dans le livre de Bereshit. Donc comment on sait que Shalem, c'est Jérusalem ? Eh bien, on le sait tout simplement grâce au livre de Yehoshua. Dans le livre de Yehoshua, il y a un homme qui est le roi de Jérusalem. Il s'appelle Meler Yerushalayim. Donc là, il n'y a plus de doute, on sait qu'on parle de Jérusalem. Mais ce roi-là s'appelle Adoni Tzedek. Le Talmud va nous enseigner que la particule Tzedek, c'était une particule qui était rajoutée au titre du roi de Jérusalem. De la même façon que Paro, ce n'est pas le nom du roi. Le roi de l'Égypte s'appelle Paro, Pharaon, mais ce n'est pas son nom. C'est un titre qui est donné à tous les rois d'Égypte. Eh bien, le Talmud nous explique que, pareil pour Jérusalem, la particule Tzedek, eh bien, est rajoutée à tous les rois de Jérusalem. Malki Tzedek, c'est donc la même famille que Adoni Tzedek. Si Adoni Tzedek est le roi de Jérusalem, alors Malki Tzedek est également le roi de Jérusalem. En d'autres termes, eh bien, ce Malki Tzedek, roi de Shalem, eh bien, c'est le premier roi de Jérusalem qu'on connaisse. Nos sages, Rashi, vont nous dire que ce Malki Tzedek n'est autre que Shem ben Noach. Shem, fils de Noach. Mais ce qui m'intéresse plus que lui, c'est comment il a décidé d'appeler sa ville et quelle a été la particule qu'il a inventé pour celui qui est le roi de cette ville. Il a appelé cette ville Shlemut, Shalem, et celui qui dirige cette Shlemut, c'est le Tzedek. La justice. Alors, évidemment qu'on est dans une génération en Israël, en 2021, où la justice semble être bien loin de son indépendance et semble être complètement politisée. Mais rappelons-nous de cette phrase de Menachem Begin qui avait dit « Yesh shoftim birushalayim ». Maintenant, sans rentrer dans le débat de savoir est-ce que les juges en question depuis Aaron Barak sont toujours impartiaux ou est-ce qu'ils sont complètement politisés de gauche, voire de l'extrême gauche, c'est pas mon débat. Mon débat, parce que le but, c'est pas de faire une étude anthropologique de ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Notre but, c'est d'essayer de comprendre la réalisation de la promesse des prophètes. Eh bien, on nous dit ici que Jérusalem doit être la ville de la justice. Le fait que la haute cour de justice soit à Jérusalem, eh bien, c'est une des réalisations de ces promesses-là. Alors après, est-ce qu'elle remplit bien son rôle ou pas? C'est un autre débat. Mais le fait que les institutions judiciaires soient à Jérusalem, eh bien, sont encore une preuve de la réalisation de la promesse. Car Yerushalayim Zeir Atzedek. Le roi de la ville s'appelle Tzedek. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ce que nous dit le prophète Micha. Micha Yahou. Eh bien, Micha, dans le chapitre 3 du livre de Micha, nous dit la chose suivante. Shimuna...
Pas judiciaire, mais juridique.
J'ai rien compris.
C'est pas judiciaire, c'est juridique.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, judiciaire, c'est... Enfin, c'est quand même la même famille. Non ? Non ?
Ouais, ça va, on accepte le fambreux, c'est bon.
Oui, c'est la même famille, c'est jux du latin, mais judiciaire, c'est le policier, et juridique, c'est le droit.
Top, eh bien, merci. Merci de m'avoir rappelé à quel point mon français était déficient. Merci beaucoup.
Ah, c'est bon.
on rigole. Dans la juridique, voilà, la justice, les kitsour. Donc, voilà. Donc, nous dit ici le prophète Micha, c'est tellement vrai cette histoire que Yerushalayim doit être Irat Sedek, eh bien que lorsqu'elle ne l'est plus, elle perd sa légitimité d'être. Voilà ce que nous dit Micha. Micha, dans le chapitre 3, est la première prophétie, chronologiquement parlant, qui parle de la destruction de Jérusalem. Ok, au niveau chronologique, Micha est le premier qui va nous parler de la destruction de Jérusalem. Shimon Hazot, Rashi Bet Yaakov. Écoutez bien, dirigeant de la maison de Jacob. Uktsine Bet Israël. Bonet Sion Bet Damim. Vous êtes en train de construire Jérusalem dans le sang. Hametta'avim Mishpat. Vet Kol Ayeshara. יעקשו ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו. Micha nous dépeint une société évidemment purement théorique, hein, bien sûr, qui ne peut pas arriver dans la vraie vie. Une société où le système, alors là pour le coup, et juridique et judiciaire, eh bien sont complètement corrompus. Ametavim mishpat. La justice est prise en grippe et complètement haïe. Vet kol yeshara yakeshu. C'est-à-dire tout ce qui est le yosher, le moussar, est mis de côté. Rochea, slicha, bashocha dishpotu. Les dirigeants, les juges, ben, jugent en fonction de la corruption qu'ils reçoivent. Vet kohanea. Bimechir Yoru, les Kohanim qui sont censés enseigner la halakha, l'enseignent en fonction du plus offrant. Voilà la situation de Jérusalem à ce moment-là. C'est l'ambiance que dépeint Micha de la fin du premier temple. Donc vous imaginez, dans un cas comme ça, Virushalaim be'avela unevi'a be'kesef yiksomu. Les prophètes, Jérusalem étant en deuil, Bavla, Avel, et ses prophètes ne prophétisent qu'avec de l'argent. Alors, c'est qui ces prophètes qui prophétisent avec de l'argent? C'est évidemment pas Nevi Hachem. Ce sont tous les Nevi Hachéker qui se baladent là-bas. Ve'al Hachem, Yishaenu le mort. Allo Hachem lachem, Biglalchem Tzion Sade. Là, il faut dire, ouais, non, c'est n'importe quoi. Sade Techarev. Bekirbenu. לא תבוא עלינו רעה, וירושלים איים תהיה, והר הבית לבנות יער. Nous dit Micha que lorsque Jérusalem a enlevé sa dimension de tzedek, eh bien elle ne mérite plus d'exister. La justice est le point cardinal, le point essentiel de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, on a dit, on a commencé à évoquer Abraham Avinu qui a rencontré Malkitsedek. Le premier homme qui devient un rave pour Abraham, c'est l'homme qui est Ishatsedek. C'est la première fois que Abraham va rencontrer un monothéiste qui le précède et qui va lui apprendre ce que c'est de Levarech et Shem Shamayim. Puisque Malkitsedek va nous dire, ou Baruch Avraham l'Elion, connaît Shamayim Vaharet. C'est-à-dire que Malkitsedek devient la référence pour Avraham de comment on doit s'attacher à Dieu. Ça passe par la justice. Abotai, on ne fait pas de politique, d'accord? Mais ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, les manifestations, tous les Motsei Shabbat, pour Bibi, contre Bibi, le Mishpat. Je ne rentre pas dans la question de savoir est-ce qu'il y a partialité ou il n'y a pas. Le fait que Am Israël Doresh Tzedek Birushalayim, eh bien, c'est la preuve que nous sommes légitimes à Jérusalem. Si on n'est pas Doresh Tzedek, on n'a rien à faire à Jérusalem. Velachen, Malki Tzedek a appelé sa ville Shalem, car il serait injuste, eh bien, de la diviser en plusieurs morceaux. Pour qu'un organisme puisse exister en tant que tel, il a besoin d'être en dimension de Shlemout. Jérusalem, si elle est coupée en deux, elle n'a plus cette dimension de Shlemout. Donc, on malkit tzedek meler shalem, là oui. C'est d'ailleurs ce que va nous prophétiser le prophète Ishayahu. Et Ishayahu nous dit. Hoppa. Ma. Ine Ishayahu Anavi nous dit dans le chapitre 1, tout début de la névoie de Ishayahu. Lachen Neum Adon Hashem Tsevaot Abir Israël. Hoy en Nachem Vashiva Yadi Alaich Vetzerof Kabor. מצרי והנקמה מאויביי. הנה. והנקמה מאויביי, והשיבה שופטייך כבראשונה. Qu'est-ce que nous dit Ishayahu Anavi dans sa première névoie de Nechama? השיבה שופטייך כבראשונה. Quand on dit la tefila tous les jours et qu'on dit השיבה שופטנו כבראשונה, eh bien ça fait référence à ce verset-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez bien fait attention au niveau de la configuration de la tefila. Dans la configuration de notre tefila, comment ça marche les brachot de la Amida? Eh bien, elles vont toujours crescendo. D'abord, on parle de l'individu, et ensuite on va parler du Klal Israël. D'abord, l'homme il demande eh bien, à avoir un minimum de jugeote, chonen adat. Ensuite, il demande à revenir vers Dieu, tchouva, d'être lavé et de faire tchouva sur ses fautes, selach lanu. Ensuite, on demande à Dieu, bah quoi, de nous aider face à nos ennemis extérieurs, geoula, geoula mina oivim. Ensuite, on nous dit, bah maintenant que j'ai plus de problème de l'extérieur, je veux pas avoir de problème de l'intérieur non plus. Je vais être en bonne santé, refoua. Ensuite, on va commencer à rentrer petit à petit dans la notion collective. Je demande la parnassa, mais pas que pour moi, pour le monde entier. Et une fois que j'ai terminé de demander parnassa, je commence le processus qui va me ramener en terre d'Israël. Et ça commence par quoi ? Hashiva shoftenu kevarishona. Après, je demande que tous ceux qui veulent porter atteinte au peuple juif soit mis de côté, birkata minim, et une fois que j'ai parlé des shoftim, je peux parler des tzadikim, des dayanim, des rabbanim. Il y a les shoftim et il y a les rabbanim pour la horot halacha. Et enfin, donc, je peux arriver à Jérusalem. Donc, la dimension ici de Mishpat est fondamentale. Est-ce qu'on y est arrivé? J'ai envie de dire qu'on a toujours des progrès à faire. De la justice de notre pays, Baruch HaShem, elle marche très bien. Même si on peut toujours progresser, évidemment. Et même si je pense que c'est absurde et complètement idiot que les points de référence de la justice en Israël soient d'abord la justice anglaise et ensuite turque, et seulement après, la justice. Mais dans tous les cas, la volonté d'une société juste, eh bien, c'est la preuve que nous sommes légitimes de revenir à Jérusalem. Ainsi, Hashiva Shoftayr Kevarishona, סיגייר ואסירה כל בדילייך ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריאה נאמנה. Donc, vous comprenez bien de quoi on parle. Ainsi, le verset Kafret nous dira Tzion bemishpat tipade veshavea bitzedaka. Vous aurez donc compris que l'un des points essentiels, pour ne pas dire le premier point de Jérusalem, c'est la dimension de Tzedek. Mais il y en a un autre. On a dit Malki Tzedek a appelé cette ville Shalem. Mais comme vous l'avez très bien dit, il y a un autre homme qui parle de Jérusalem. Et cet autre homme qui parle de Jérusalem, eh bien, vous le connaissez très bien, Avraham Avinu. On est à la fin de la Akeda. Et à la fin de la Akeda Titzrak, Vaikra Avraham Shem Amakom Aou, Hashem Yireh. Hashem, Asher Yamer, Zicha, Ayom, Be'ar Hashem Yira'e. Vous aurez compris que les psukim sont coupés n'importe comment, parce que la personne qui a préparé cette feuille est un incapable informatique. Je préfère ne pas dire son nom, même si ça commence par E et ça finit par Tan. Mais bon, vous avez compris maintenant comment ça marchait. Vu que vous connaissez en plus tous les versets par cœur, il n'y a pas de problème. Donc, Abraham nous dit, cet endroit s'appelle Hashem Yireh. Lama, parce que Vayamer Ayom Ber Hashem Yira'eh. Donc, on a cette dimension de Yira qui est fondamentale pour Jérusalem. Semble-t-il que s'il n'y a pas la Yira, il ne peut pas y avoir non plus le Tzedek. Seulement, est-ce qu'on parle de Yira en termes de crainte ou est-ce qu'on parle de Yira en termes de la possibilité de voir, de Re'ia? Eh bien, c'est les deux, mes amis. Il y a évidemment la dimension de Yira. Mais Jérusalem, son autre rôle central, eh bien, c'est d'être la connexion où je peux être vu par Dieu et voir Dieu. Alors, vous savez, nous avons une mitzvah dans maintenant 4 semaines. Nous avons une mitzvah de voir Dieu et surtout d'être vu par Dieu. Shalosh pa'amim bashana. Yirae kol zechurecha et pene Adon Hashem. Mitzvat Reiya, qu'on a à Pessah, qu'on a à Shavuot, qu'on a à Sukkot, c'est d'être vu et de voir. Montrer qu'il y a cette connexion entre nous. C'est ça, Yerushalayim. Yerushalayim, c'est ce tzedek qui nous permet d'arriver à une dimension de Re'iya qui nous permet de voir Akadosh Baruch Hu et d'être vu par lui comme étant digne et légitime de cela. Une fois qu'on est capable de faire ça, d'ailleurs, est-ce que ça, cette partie de la prophétie, s'est réalisée? Tchouva? Qu'est-ce que vous en pensez? Ken Ken Lolo? Vadaï! Bevadai, dans la tfila de Yom HaAtzmaout de cette année, eh bien, le Chazan, le Rav Dr Eric Belaïch, a dit cette phrase qui est devenue célèbre, Har Habayit Beyadenu, le mont du temple est entre nos mains. Donc nous pouvons, après, sans rentrer dans le débat halakhique et sans rentrer dans le débat de la Wakf, mais nous pouvons tout à fait remplir cette mitzvah de Re'iya, parce qu'on n'a pas besoin du Bet Amikdash pour faire la mitzvah de Re'iya. Pour faire la mitzvah de Re'iya, il suffit d'être à l'endroit que Dieu a choisi. Et ça nous incombe tous, que ce soit parce que vous êtes des gens qui pensent qu'on a le droit de monter sur le mont du Temple à certains endroits, ou que ce soit au pied du mont du Temple, depuis 1967, eh bien, nous pouvons arriver jusqu'au pied du mont du Temple et donc réaliser quelque peu la mitzvah de Réia. La mitzvah de Réia, c'est bien mettre en haut. Mais ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit d'aller en haut, alors ils vont en bas. Chose qu'on ne pouvait pas faire pendant 2000 ans, de toute façon. Et donc, il y a cette dimension de Yir'a, de Réia, qui s'est mise en place, également cette notion de Ira Tzedek. Alors maintenant qu'on a dit ça, alors très bien. Dans la mesure où on a compris quels étaient les objectifs de Jérusalem, eh bien, on peut comprendre que leur rentrée dans Jérusalem, c'est non seulement remplir ses objectifs, mais en dévoiler d'autres. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais lorsque Abraham, eh bien, termine sa discussion avec Dieu, Dieu lui dit tout simplement « Veidbarechu bezaracha kol goyei haaretz ». C'est-à-dire que cette dimension qu'on entretient avec Jérusalem va nous permettre, eh bien, d'être une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Ni plus ni moins, Rabotai. Est-ce que là aussi, c'est une prophétie qui s'est réalisée? Tchouva? Barour? Barour? Ne serait-ce que parce que, eh bien, parmi les plus grandes puissances du monde, amènent leur ambassade à Jérusalem, mais au-delà de cela, parce que on voit que viennent se recueillir ici tous les peuples du monde et attendent du peuple juif un message. Le problème, c'est que le peuple juif ne lui donne pas toujours ce message. Mais il est évident que tout le monde entier, voit Jérusalem comme étant une source de bracha. Alors maintenant qu'on a dit ça, très bien. Mais le fait d'être présent et revenu à Jérusalem nous permet de dévoiler une autre dimension de cette ville extraordinaire. Le livre de Devarim, au chapitre 33, nous dit, chapitre Lag, nous dit, vous connaissez ce verset dans la parasha de Vezot à Beracha, « Ole binyamin amar yedid Hashem, ishkon navet achalav, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. ירושלים, ולבנימין אמר, ידיד השם, ישכון לבטח עליו, ובין כתפיו שכן. ירושלים est également la ville de la Shrina. Shrina, c'est la dimension de Shrenout, la dimension de voisinage. On est voisin d'Akadosh Baruch Hu. Vous le connaissez, ce terme de Pirkei Avot qui nous dit qui dit dans la Mishnah de Pirkei Avot Itrachek Mishachen Ra. Mitzat Sheni, quand il est tov, le shachen, eh bien on dit Ezoi mida tova shetzarich lidbog bo adam shachen tov. En d'autres termes, Yerushalayim, c'est la ville où je peux être un bon voisin pour Akadosh Baruch Hu. Et où Akadosh Baruch Hu est un bon voisin pour moi. Mais ça veut dire quoi? La shrina. Shechina milashon shochen. C'est-à-dire que c'est constamment avec moi. Pourquoi est-ce que le Shachen Tov, c'est tellement important? Parce que le Shachen, il est là tout le temps. La dimension de Shrenout, c'est que tu le vois tous les jours. C'est qu'il est constamment en contact avec toi, le Shachen. Eh bien, c'est ça, ma relation avec Dieu, lorsque je suis à Jérusalem. Lorsque je suis à Jérusalem, je suis le voisin de Dieu. C'est pas shoot. Est-ce que Am Israël est redevenu le voisin de Dieu? Ben oui. Zéou. Chazarnu liot shrene Hashem. Ce qui nous permet, eh bien, de dévoiler la shrina d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi nous dira le prophète Shmuel dans Shmuel Bet. Hoppa. Nous dit le prophète Shmuel Bet, chapitre 5. Nous sommes dans la conquête de Jérusalem. La fameuse conquête de Jérusalem par le roi David. Ben Shloshim Shana Bemolcho Arbaim Shana Malach. Malach al Yehuda Sheva Shanim Veshisha Chodashim. Ou Yerushalayim Malach. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est très très mal écrit. Ou Yerushalayim Malach Shloshim Veshalosh Shana. Bon, vous aurez compris. Bechevron, il a régné sur Yehuda pendant 7 ans et demi. Et à Jérusalem, il a régné sur Jérusalem, sur tout Israël, pendant 33 ans. Mais ce qui va être important, c'est de voir comment David va réussir à conquérir Jérusalem. Et vu que c'est tellement mal écrit, je me permets 2 secondes de stop chéré. Pour vous raconter cette histoire que vous connaissez d'ailleurs. David, il vient conquérir Jérusalem. Le simple fait de dire que David, il vient conquérir Jérusalem, doit nous faire tilt. Ça fait à peu près 400 ans qu'on est sorti d'Égypte et qu'on est rentré en Israël avec Yehoshua. Et David, il doit conquérir Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Quoi, les autres tribus, pendant toute la période de livre de Yehoshua, pendant le Sefer Shoftim, on n'a pas conquis Jérusalem? Eh bien non. Le livre de Yehoshua nous dit qu'on a vaincu le roi de Jérusalem, mais ce n'était pas à Jérusalem. Et résultat des courses, il y a un autre roi qui a dû prendre sa place et on n'a pas réussi à conquérir Jérusalem. Et Jérusalem, pendant 400 ans, sera le dernier bastion cananéen en Israël. Baisse un petit peu ta cam. Comme ça ou comme ça? Comme ça, c'est bien?
Top.
Yofi. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a conquis Jérusalem, on n'a pas conquis Jérusalem, on ne l'a pas conquis. Pendant 400 ans, on ne l'a pas conquis. Et pourquoi? Pourquoi on ne l'a pas conquis? Alors oui, vous allez me dire, c'est une ville qui est fortifiée, c'est une ville qui a une muraille naturelle en plus de ses murailles sur les murailles naturelles. C'est une ville qui est très bien gardée, mais je ne vois pas pourquoi on aurait réussi à prendre Hatzor, à prendre Megiddo, à prendre Hebron, qui étaient elles aussi des villes fortifiées, et pas Jérusalem. Semble-t-il qu'il manque quelque chose pour prendre Jérusalem. Qu'est-ce qui manque pour conquérir Jérusalem? Eh bien, ce qu'il manque, les amis, pour conquérir Jérusalem, c'est tout simple. Il manque Am Israël. Car jusqu'à présent, Am Israël, jusqu'à David, ne fonctionne pas comme un peuple. Jusqu'à présent, Am Israël fonctionne comme des tribus. Et là, ça va être la première fois que Am Israël va se réunir autour d'une cause. David vient d'être nommé roi par toutes les tribus d'Israël. Et la première chose qu'il fait, c'est de rassembler ses hommes de chaque tribu et de marcher sur Jérusalem. Lorsqu'il arrive là-bas, les Jébuséens disent à David, mais même si on mettait des cul-de-jatte et des aveugles sur les murailles, tu pourrais pas prendre la ville. Et David le sait. David sait que dans un affrontement corps à corps frontal, il ne peut pas prendre la ville. Il y a trop de fortifications. Personne, aucune armée n'a réussi à prendre Jérusalem avant lui. Il ne pourra pas. Vous allez me dire, pourquoi il ne fait pas un siège? C'est comme ça qu'on prend une ville fortifiée. On fait un siège. Je dirais oui, mais pour faire un siège, il faut 2 choses que David n'a pas. La première chose, c'est du temps pour affamer la ville. Et David n'a pas ce temps parce qu'il doit faire un coup d'éclat pour montrer et asseoir son autorité sur le peuple. Et il lui faut de l'argent. Ça coûte très cher d'entretenir un siège. Et il n'a pas. Donc, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce que David va faire? Eh bien, c'est très simple. Il va utiliser ses techniques de berger. Eh oui, rappelez-vous, David est un berger avant d'être le combattant d'Israël qu'on connaît. Et le berger, eh bien, il a un sixième sens. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été berger dans vos vies, mais le berger a un sixième sens. Le berger est capable de trouver de l'eau partout. Parce que le berger, des fois, il va rester des jours et des jours et des jours hors de sa maison à faire paître les troupeaux. Et non seulement pour ses troupeaux, mais pour lui aussi, il a besoin d'eau. Et donc, s'il n'est pas capable de trouver de l'eau là où il est, il ne sera pas berger très longtemps. David sait très bien qu'il y a une source. Parce que s'il n'y avait pas de source à Jérusalem, il n'y aurait pas de ville. On a besoin d'eau. Il voit également qu'à l'extérieur des murailles de la ville, il y a des cultures. Il y a de l'irrigation. Donc, c'est que de cette source d'eau, on part à l'extérieur des murailles. Et il est impensable que tous les jours, les mecs, ils prennent des seaux depuis la ville pour aller arroser les cultures. Donc, David, il dit, si l'eau sort de la ville, eh bien, moi, je peux rentrer. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. David va trouver la faille naturelle par laquelle la source du Gihon s'extirpe à l'extérieur des murailles et va envoyer ses meilleurs hommes, commandés par Yoav ben Tseruya. Et là-bas, la Torah nous dit « Vayivga batsinor ». Et il a touché le tuyau. Sauf que nous, on sait ce que c'est un tsinor, un tuyau en hébreu moderne. Mais dans le Tanakh, ça veut dire quoi, tsinor? Eh bien, c'est un mot que les commentateurs de la Torah ont du mal à comprendre. Jusqu'à ce qu'au 19e siècle, eh bien, l'archéologue Charles Warren nous dévoile c'est quoi le tsinor en question. Car oui, il y a une faille naturelle qui a formé un espèce de tuyau dans la roche qui permet de faire sortir l'eau à l'extérieur de Jérusalem. Yoav ben Tseruya va trouver le tuyau, va le grimper et va rentrer dans la ville par l'intérieur des murailles, par un souterrain qui donne à l'intérieur de la ville, tuant les quelques gardes devant la porte. Il ouvre les portes de la ville et là, eh bien, pour paraphraser la Seconde Guerre mondiale, c'est une blitzkrieg. C'est une guerre éclair, car la conquête de Jérusalem fera cinq mots. Vaikar David et Metsudat Tzion. Et c'est pesé. Une fois qu'on a ouvert les portes de l'intérieur, l'armée de David fond dans la ville et David a pris la forteresse de Sion. Zéo. Mais pour cela, il avait besoin de tout son peuple. Il avait besoin de Am Israël. Qu'est-ce qui manquait à l'époque de Yoshua, de Shoftim, pour avoir Jérusalem? Eh bien, c'était cette dimension de Kulam Beyachad. Cette dimension de Chibour, cette dimension de Chibour, d'union, qui est le propre de Jérusalem, eh bien, on le retrouve dans un premier temps de manière extrêmement triste, dramatique. La première fois, j'ai dit, où le Ham Israël va se battre ensemble, c'est donc avec David pour conquérir Jérusalem. Mais la première fois où Ham Israël va se réunir et va se battre non plus en tant que tribu, mais en tant que nation, ça se passe avant. Je ne voulais pas le dire, mais il faut le dire. C'est presque la nation d'Israël, mais il manque une tribu. Nous sommes dans le livre de Shoftim, et c'est l'histoire de Pilegesh Bagiva, que vous avez sous les yeux. Pilegesh Bagiva, c'est cette fameuse histoire où les gens de la tribu de Binyamin, eh bien, ont fait des actes terribles, des actes sodomites avec cette femme et cet homme, du moins cette femme, pas l'homme, parce que l'homme n'est pas sorti de la maison, qui sont venus trouver refuge. L'histoire, elle est très simple. On a un homme dont on ne connaît pas le nom. Il a une concubine, on ne connaît pas son nom non plus. On sait qu'il va la chercher à Bethléem et que de Bethléem, ils veulent rentrer Béar Ephraim, à côté de Ramallah. Il marche et arrive la tombée de la nuit au moment où ils sont, et là, je tiens à vous le dire, je suis très fier de passer devant tous les jours. Vous connaissez la rue Emek Refaim ? Vous connaissez Emek Refaim ? Ouais. Vous allez au bout d'Emek Refaim, pas côté Talpiot, côté King David. Eh bien, au bout d'Emek Refaim, vous avez ce qu'on appelle Gan Apahamon. Il y a une station essence là-bas. Eh bien, en face de la station essence, il y a une petite fontaine. Et cette fontaine, eh bien, est entourée de lions. Ce sont les lions gardiens de Jérusalem. C'est pour ça que ça a été fait, c'est pour ça que la fontaine a été créée comme ça. Mais cette fontaine passe sur le tracé exact de la séparation entre la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. C'est à cet endroit, c'est pour ça qu'il y a des lions qui sont les symboles de Yehuda, et donc qui sont à la frontière pour garder. C'est à cet endroit-là qu'arrivent cet homme et cette femme, et le soleil va se coucher. À ce moment-là, ils se disent, où est-ce qu'on va dormir ? Et la madame, elle dit, regarde là, il y a une ville. Elle montre du doigt la ville de Jébus, Yerushalayim, mais qui à ce moment-là est encore entre les mains des Cananéens, Jébuséens. À ce moment-là, l'homme lui répond, il est hors de question que j'aille passer la nuit dans une ville de non-circoncis. Donc nous allons en marcher encore jusqu'à Giv'a, qui est Pisgat Ze'ev d'aujourd'hui. C'est une ville qui appartient à la tribu de Binyamin. C'est là qu'on va aller passer la nuit. Et donc c'est à partir de cet endroit-là que tout est parti. Finalement, la tribu de Binyamin va avoir ce comportement sodomie qui vont massacrer cette jeune femme. L'homme, trouvant sa femme gisante sur le sol le lendemain, la ramène chez lui. Elle est morte. Il la coupe en 12 morceaux et il envoie chacun des morceaux à chacune des tribus d'Israël avec une note explicative de ce qu'ont fait les gens de Binyamin. Et pour la première fois, Am Israël se réunit autour de cette Nevela chez Nahastab et Israël et vont sortir en guerre contre Binyamin. Pour la première fois, Israël va s'unir autour de Tzedek, de ce Tzedek qui est le propre de Jérusalem. Le Tikkun, ça sera lorsque David réunira toutes les tribus pour aller conquérir Jérusalem. Et ainsi, eh bien, nous pouvons arriver à ce verset que tout le monde connaît, qui nous montre bien cette dimension de ribour quand on parle de Jérusalem. Dans ce Tehilim que tout le monde connaît, Shira Ma'alot le David, Samarti be'omrim li, bet Hashem nelech. On va aller à la maison de Dieu. Comment ? Omdot ayu raglenu, bishareich Yerushalayim. Yerushalayim abenuya, ke'ir shechuberala yachdav. Jérusalem est la ville réunifiée. Cette dimension de ville qui doit être unifiée, réunifiée, pour dévoiler, eh bien, son objectif, pour dévoiler la force de Jérusalem, eh bien, est-ce que ça s'est réalisé ? Eh bien, Vadaï, en 1967, nous avons réalisé Yerushalayim Keir Shechuberala Yachdav, une ville qui n'était plus seulement réunie dans les cœurs, qui n'était plus seulement réunie dans, les prières, mais qui était réunie dans le terrain où Am Israël pouvait enfin se rendre ensemble à Jérusalem. Alors, quelles sont les autres prophéties sur cette ville extraordinaire, et le Beth Amikdash dans tout ça, et la vie du peuple juif à Jérusalem? Eh bien, tout cela, les amis, eh bien, ce sont des prophéties que nous devrons encore voir ensemble la semaine prochaine. Chazak ou Baruch, tout le monde. Est-ce qu'on parle de cette guerre dans une Haftara? Tu parles de quelle guerre? De quelle guerre parles-tu?
De David.
Ah, la conquête de David. La conquête de David, est-ce qu'elle est mentionnée dans une Haftara? Je me rappelle pas, je crois pas. Je crois pas. Ah, la faute de Binyamin, Pilegesh Bagiva. Non, Pilegesh Bagiva, c'est pas mon souvenir, c'est pas non plus dans une Haftara. C'est pas non plus dans une Haftara. Y a-t-il pourquoi d'autres questions? Pardon?
Pourquoi il a coupé sa femme en 12 morceaux? Qu'il les a envoyés aux 12 tribus, mais ça a donné quoi?
Ça a donné quoi? Ça a donné exactement la même chose que votre question. Vous posez la question parce que c'est révoltant et c'est choquant. Maron, c'était ça le but. De choquer tout le monde et de leur expliquer voilà à quoi a été capable de se livrer une partie du peuple juif. Le but était de choquer.
Toda Rabba, merci beaucoup, Ethan. J'ai d'autres questions, c'est le moment.
Alors, moi, j'ai une question. Comment on fait pour acquérir le livre sur Herzl? J'en voudrais un et en hébreu et en français.
Eh bien, tu appelles Brigitte.
Ok, voilà. Très bien. Très bien, alors on fait
sinon,
ça.
Sinon, il est en vente sur le site. Il est en vente aussi sur le site Mercat Herzl, si tu veux.
Ah, ok. Top. Bessayder. Bessayder, alors on continuera sur Jérusalem la semaine prochaine.
Kol tov. Merci.
Tout à l'heure.
Kol tov.